Je ne vais pas faire coordinatrice d'intimité chez Bernard, qui a mis une caméra dans son garage et qui a invité deux voisines. Ouais. Voilà. Ouais, où je lui dis, mais Bernard, t'as pas de contrat.
Coucou, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Alors Femtasy, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes. Sur Femtasy, on a tous les fantasmes, du plus vanille au plus hardcore. Donc vous vous en doutez, ce podcast va envoyer du lourd. À chaque épisode, nous recevons une invitée pour parler bien, parler sexe. Et parce que nos invités sont beaucoup trop cool, elles vous ont sélectionné leur audio préféré que vous pouvez découvrir en vous inscrivant à notre newsletter. Et non seulement vous aurez accès à leurs recommandations, mais vous pourrez également explorer plus de 300 audios. Bref, on trouve l'accès dans la description de l'épisode. On y va. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous obsède. Et je m'adresse à celles et ceux qui ont déjà recherché sur Google « Comment faire une pipe » ou « Comment devenir une bête de sexe » ou encore « Comment contracter son périnée comme dans un orgasme sur demande ». Je vous vois. Vous n'êtes pas seul. On a toutes et tous envie d'être des bons coups, soyons honnêtes. Parce que oui, sur le marché de la baisabilité, il y a les super baiseuses et les autres qui seraient frigides, coincées, trop sages. Bref, tu penses que tu as déjà été un mauvais coup, toi, Camille ?
Non, jamais. Jamais, un 20 jamais. Sur 20. Chacune de mes performances font jaillir le plaisir de ces messieurs, bien évidemment, Lisa. Je blague. C'est quoi ce mythe ? Faut pas avoir inventé la capote pour comprendre que les énergies, l'amour, l'envie, le désir, l'instant T rendent ou non l'instant magique et que non. On n'est pas des machines à sexe ou des machines à performer.
Ouais, la performance. Mmh. Alors, on va parler de meufs passives, de meufs actives. On va parler d'étoiles de mer, des représentations sexuelles. Et bien, pour cela, on a besoin d'une experte qui a vu les dessous du milieu qui modèle en profondeur nos attentes vis-à-vis du cul. Bien évidemment, je parle du porno. Nous avons l'honneur de recevoir Lisa Del Sierra, ancienne actrice X, réalisatrice et productrice. Après avoir touché à tous les métiers du X, elle porte la rédaction de la première charte déontologique pour la production de porno en France et se rend régulièrement au Sénat en porte-parole du milieu. Elle est aujourd'hui coordinatrice d'intimité chez Marc Dorcel. On a hâte de l'entendre. Allez, c'est parti.
Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche.
Ah bah alors, le moment où je me suis dit le sexe, c'est quand même hyper libre. Mmh. Ça nous appartient dans tous les moments de la vie. Et c'est comme on veut, quand on veut. Mmh. La casquette de maman. On va prendre celle-ci. J'ai perdu les os le samedi soir pour ma deuxième. Mais finalement, il ne se passait rien. Et donc, si elle n'arrivait pas, j'allais avoir droit au bon vieux déclenchement. J'ai donc passé 48 heures à me masturber et à enchaîner, mais oui, à enchaîner les orgasmes pour déclencher des contractions.
D'accord.
Et comme je la voulais sans péri, eh ben, en salle de travail, j'ai continué à me masturber parce que contre la douleur, c'est quand même génial. Ouais, on a toutes déjà débouché notre nez en plein rhume en se masturbant. Il n'y a pas plus vasodilatateur.
Je
ne
l'ai pas fait.
Mais ça, c'est royal. T'as débouché, masturbe-toi, c'est super efficace. Ben voilà, pour les contractions et pour faire venir un bébé, ça marche très bien aussi. Donc, je me suis énormément masturbée à la maternité et j'ai vécu le plus bel accouchement possible parce que j'étais en plein kiff. J'étais pleine de super bons hormones. C'était trop cool.
Et comment était du coup le personnel médical autour? Enfin, il devait trop kiffer de voir que c'était... Enfin, ça devait être une première.
Alors, je me suis pas masturbée devant ma sage-femme. je me suis... Devant l'étudiante, oui. Ouais. Parce que j'avais une sage-femme et une étudiante sage-femme. Mmh. Mais en fait, on m'a laissée dans ma salle de naissance. Enfin, je sonnais si ça n'allait pas. Elle venait me voir régulièrement pour voir où on en est. Le fameux ouais. « On va regarder où on en est
!» Oh là là.
Voilà. Entre-temps, vraiment, j'étais seule dans ma bulle. Donc, j'avais un livre de Michael Connelly et mes doigts. Et j'alternais un peu de lecture pour me vider la tête. Mmh. Et ensuite, je reprenais la masturbation. Et quand concrètement, ça a commencé à devenir très, très intense, je me suis masturbée intensément. Et l'étudiante sage-femme a trouvé ça super cool.
Ouais. C'est fou, donc, en fait, ce genre de technique soucis, qu'on ne nous dit pas. Parce que là, j'ai une amie. On lui a dit, par contre, avant, parce que pareil, elle a eu du mal. Elle a dû attendre le dernier moment. Et on lui disait, faites beaucoup, 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 beaucoup l'amour. Parce que c'est ça qui provoque généralement aussi...
Oui, il y a le fait que le sperme au contact du col... Ça peut commencer à le modifier, donc ça aide aussi. Ça, c'est la méthode italienne. On appelle ça la méthode italienne. C'est d'avoir des éjaculations internes à l'approche de la date fatidique pour travailler le col. Donc, en l'occurrence, je n'ai pas mis en œuvre cette méthode-là. Mais quand on m'a dit, là, madame, vous avez perdu les os déjà, il va vraiment falloir qu'elle sorte, il faut enclencher les contractions. J'ai essayé le ballon, la Zumba, le machin. À un moment donné, je me suis dit, tout au long de ma grossesse, qu'est-ce qui m'a fait des contractions un peu tout le temps, mais à chaque fois que je me masturbais. Ouais. Derrière, j'avais des contractions qui étaient folles. Mais c'est parti, quoi.
Maintenant, tu es coordinatrice aussi d'intimité, je crois, chez Marc Dorcel.
Oui.
Est-ce que tu peux m'en parler, me dire en quoi ça consiste?
Alors déjà, on ne dit plus Marc Dorcel, c'est Dorcel tout court.
D'accord,
ah, ouais, voilà. Ok. Bon, pauvre ami Marc est à la retraite, on va le laisser tranquille. C'est la maison Dorcel maintenant. Alors effectivement, quand j'ai travaillé sur la charte déontologique, la question du tiers de confiance a été une demande vraiment unanime des gens du métier. Et donc, on a créé ce métier en s'inspirant des coordinatrices d'intimité dans le cinéma traditionnel aux États-Unis, puisque là-bas, c'est quand même assez courant qu'il y ait quelqu'un. Sauf que là-bas, dans le cinéma traditionnel, leur travail, c'est plus de chorégraphier les scènes d'amour pour que le réalisateur soit content, mais que les comédiens ne soient pas brusqués, vider le plateau, proposer les peignoirs, s'assurer que le mec ne règle pas ses lumières juste pour mater l'actrice à poil, machin. C'est plus ça le travail. Sur les tournages X, c'est vraiment garant du consentement. Il y a un côté bien-être et bienveillance. On s'assure que la communication soit correcte. On s'assure que les gens, ils aient bien dormi, bien mangé, qu'ils soient informés de leur plan de travail, que tout soit fluide et professionnel. Mais il y a aussi tout un aspect un peu juridique où je donne le top pour la scène si on a bien signé le contrat, on a bien montré ses tests, on a bien des pièces d'identité valides, qu'on a bien fait sa checklist, ce que je fais, ce que je ne fais pas avec son partenaire, que la réalisatrice ou le réalisateur soit OK avec ça. Moi, je demande toujours aussi aux acteurs et aux actrices s'ils ont des petits complexes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas qu'on filme une acte. Moi, je sais qu'avant, au début de ma carrière, je n'avais pas encore refait ma poitrine et je voulais garder mon soutien-gorge. Et c'était des guerres constantes avec les réalisateurs. Je ne voulais pas montrer mes seins. Donc, je me permets de poser la question aux actrices. Et une fois que la question est posée, les réals, ils n'ont plus vraiment le choix. Oui, alors moi, j'ai un peu de vergeture lit, là, machin, et ça contribue au bien-être des comédiennes. Et donc, je suis là à peu près 24-24 sur le tournage pour m'assurer que tout se passe bien, que chaque soir, tout le monde sait à quelle heure il doit se lever, à quelle heure il a attendu au make-up, à quelle heure il va tourner. Si on a mis la scène l'après-midi, est-ce que ça te convient? Ah ben non, moi, j'aurais voulu le matin parce qu'il y a de la sodomie, tout ça. Et donc, voilà, ce rôle un peu de médiatrice sur tout ça. Et j'assiste à toutes les scènes.
C'est ça, ouais.
Pour m'assurer qu'il n'y ait aucune pression, aucun propos qui soit pas correct ou indécent.
Parce que même pendant les scènes, du coup, tu checks, du coup, tu dois être en alerte tout le temps pour voir comment se déroule la réaction aussi des acteurs, des actrices, pour sentir si tout se passe bien.
C'est ça. Après, on parle de tournage Dorcel.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de grande inquiétude. Ouais. Clairement, ça se passe très bien.
Parce que c'est très protocolaire.
Parce que ce sont que des acteurs, des actrices professionnelles.
D'accord.
Donc, c'est sûr. Et les réalisateurs, les réalisatrices, pareil, les équipes techniques, tout le monde, c'est que des professionnels. Je ne vais pas faire coordinatrice d'intimité chez Bernard, qui a mis une caméra dans son garage et qui a invité deux voisines.
Ouais.
Voilà. Où je lui dis, mais Bernard, t'as pas de contrat. Le plus gros de mon métier, c'est d'accompagner les acteurs plutôt que les actrices, sur le fait que la performance n'est pas obligatoire.
Okay.
Ils n'ont pas l'obligation de réussir, ils n'ont pas l'obligation d'avoir une érection.
Ça veut dire quoi, réussir exactement?
Réussir, c'est faire sa scène, c'est-à-dire bander et éjaculer.
Ouais.
Okay. Ça n'est pas obligatoire, on est des humains. Et le facteur humain a longtemps été oublié dans la course à la perf, les gonzos, surtout que la plupart des acteurs aujourd'hui travaillent autant sur des films Dorcel où on leur demande de faire leur scène du mieux qu'ils peuvent, en restant en bonne santé, avec des scènes dans les pays de l'Est où on leur demande de la faire en moins d'une heure, tambour battant, et il faut que ce soit parfait. Et donc, ils ont recours à une aide médicamenteuse qui est strictement interdite en France.
C'est interdit en France, d'accord.
Mais c'est un produit qui n'est même pas distribué sur le sol français. Donc,
ah oui, donc on ne parle pas de la pilule bleue, là.
On ne parle pas de la pilule bleue. Ouais, on parle d'autre chose. Et Dorcel demande aux acteurs de s'engager à ne pas avoir recours à ces produits-là. Bien sûr, moi, je ne peux pas les traquer toute la journée, les suivre dans la douche.
Qu'est-ce que c'est ça?
Voilà, donc je fais de mon mieux pour être là pour eux. Récemment, j'étais sur le tournage d'une réalisatrice qui s'appelle Lizelle Bailey en Angleterre. Et l'acteur me dit, voilà, j'aimerais essayer de faire naturel, mais je ne connais pas cette réalisatrice. Et il était sur mon tournage quelques semaines plus tôt. Et on a été hyper contents que sur ces 5 ou 6 scènes, il nous en ait fait 3 naturelles. Wow. Les autres, ça a été un peu plus dur. C'était la fin de semaine, il avait un peu fait la fête. Et après on va dire 1 demi-heure, 3 quarts d'heure à essayer. Il dit, ouais, bon, là, Lisa... je pense que bon, je vais m'aider. Je lui dis, écoute, si tu fais pas ta scène, honnêtement, je m'en fous, quoi. Oui, mais moi, je veux faire ma scène. Oui, mais enfin, moi, je leur dis, tu seras payé quand même, c'est dans le contrat. Ouais, mais non, je veux faire ma scène et tout. Bon, bah, tant ton âme et conscience, quoi.
Ouais.
Moi, ça me dérange. Je n'ai pas trop envie, okay. Mais je peux pas. Voilà. Là, en l'occurrence, il voulait que je l'accompagne auprès de la réalisatrice et que j'explique à la réalisatrice, voilà, cet acteur travaille surtout dans les pays de l'Est. Avec une aide médicamenteuse, et il aimerait, si tu lui laisses cette marge de manœuvre, de prendre son temps, le faire naturel, ou en tout cas de faire son possible. Et elle a été hyper réceptive, on en a parlé tous les trois, et c'était cool. Et il a fait une scène dantesque avec une comédienne avec qui j'ai échangé avant. Il m'a dit, ouais. Tu le dis pas trop à la fille, je veux pas trop qu'elle se prenne la tête, elle va mettre la pression. Évidemment, j'ai prévenu la fille.
Mais quand et tu dis le faire naturel, du coup, c'est quoi ?
C'est faire appel à des fantasmes personnels, à travailler de manière cérébrale comme le faisaient pendant des années les Philolidés, les Sébastien Barrio, les Francesco Malcolm, les Ian Scott et j'en passe, les grands acteurs, Manuel Ferrara, voilà, ou même Danny Dee, c'est des gens qui travaillent, tout est dans la tête, quoi. C'est des professionnels, mais c'est quelque chose qui s'est perdu parce qu'à l'époque, un acteur, il faisait 1, 2, 3 films dans le mois, il revoyait des comédiennes qu'il connaissait bien, avec qui il avait quand même une affinité, souvent avec qui il s'envoyait en l'air hors plateau aussi, parce que c'était un tout petit milieu. Mmh. Maintenant, c'est un peu le tout venant peut devenir acteur X parce que soi-disant, il suffit de bander. C'est faux. Faut bien sûr connaître aussi certaines techniques liées aux caméras, à la mise en scène, à accompagner la comédienne pour la rendre la plus belle possible, être à l'écoute. C'est un métier très humain, donc c'est des mecs qui se cassent la gueule très vite, mais qui vont quand même assumer un certain nombre de scènes grâce à l'aide médicamenteuse. Moi, j'ai jamais aimé filmer un acteur qui a la tête dans l'oreiller alors que je lui ai mis une bombasse dans son lit. J'ai en fait, regarde-la quand même. Regarde-la. Même si t'as pas besoin d'elle, visiblement, pour avoir une érection, à minima, fais-moi croire que c'est la femme de ta vie pour la prochaine demi-heure, quoi.
Mais ça, j'adore, en fait. Ouais. Je me demande comment est-ce que t'arrives à faire semblant sur les tournages qu'il y a des sentiments amoureux. T'as des tricks ? Est-ce que c'est l'exposition de la lumière ? Est-ce que dans le scénario, tu vas laisser plus de place à l'introduction ? Comment est-ce que t'arrives à créer cette émotion, cette intimité ?
J'ai pas souvent des scènes où j'ai besoin qu'on ait l'impression qu'il y ait des sentiments.
D'accord.
Mais quand c'est le cas, de manière générale, je fais tourner des couples.
Ouais, ouais. Ça, la question, okay. Ouais.
Je fais tourner des couples. Ou alors, je m'assure de l'alchimie. Soit je vais vers un acteur et une actrice qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui attendent que ça. Ouais. Et j'essaye de faire en sorte qu'ils ne s'envoient pas en l'air avant qu'on fasse la scène.
Parce que ça arrive, ça.
Vous êtes séparés. ça peut arriver. Ouais. Hein, ça peut arriver. Moi, je me rappelle d'un duo, là, sur mon dernier set. Ils n'avaient pas de scène ensemble. Donc, ils étaient un peu dépités. Et à la fête de fin de tournage, j'étais dans ma chambre. Et j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient sous ma fenêtre. Et en fait, non, ils étaient juste devant ma porte. Les gars.
Vous avez choisi le.
Ben non, quoi. Au moins, elle est dans une piole, quoi. J'en sais rien. Moi, je fais toujours en sorte de séparer les garçons des filles. Donc, la maison des garçons était quand même à 1 km de la maison des filles. Et il a fait le trajet à pied pour retrouver sa dulcinée. Mais comme il ne savait pas comment était foutue la maison de la technique, parce qu'ils sont venus à la maison de la technique pour faire ça.
Devant ta porte.
Il s'est retrouvé devant la porte de la prod. Alors, pas de bol. C'était pas le bon endroit.
Du coup, tu casses. Enfin, moi, je me disais, on m'a plusieurs fois dit que c'était quand même assez mécanique et qu'il y avait peu de désirabilité.
C'est archi faux.
Ouais, c'est faux.
En France, dans le porno français, c'est archi faux. Autant, je ne vais pas mentir, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, moi, quand je tournais aux États-Unis, quand tu tournes une fois par jour, 7 jours sur 7, avec un partenaire différent, quand tu retrouves un partenaire une deuxième fois, bah, tu es contente. Ouais. Parce qu'on se connaît un petit peu. Ah, cool. Et là, l'alchimie, voilà, il se passe un truc. Mais des fois, tu rencontres le mec, tu finis la scène, tu sais toujours pas comment il s'appelle. C'était une chouette scène. Souvent, voilà, il va être super content parce que t'es hyper active, parce que t'encaisses, parce que t'as donné l'impression. Il a vraiment eu l'impression que t'avais passé un super bon moment. Moi, c'était un peu mon truc, leur faire croire que c'était des super héros. Comme ça, ils étaient à fond dedans et on faisait des scènes incroyables. Mais l'alchimie, le côté un peu séduction, le côté l'acteur qui essaye de te faire plaisir, tout ça, ça, c'est très français.
Okay.
Ça, c'est super français. Intéressant. On fait du cinéma de genre, nous.
Ah ouais, jusqu'au bout. Ce que je trouve super intéressant, c'est que tu parles quand même de cette dynamique, en fait, où tu es en train de rassurer l'acteur. Ouais. C'est vraiment, c'est des, on reproduit quand même des stéréotypes qu'on voit aussi dans notre intimité, du coup, non professionnelle, où en fait, on est quand même en train d'être des cheerleaders du sexe, tu vois, rassurer, non, tout va bien, ta performance, ça va, tout va bien, oh, j'adore, tout se passe bien, etc. Et du coup, on retrouve aussi ça dans une dynamique pro, avec, alors que tous les deux sont là pour faire un service. Et,
Oui, après, toutes les filles ne font pas ça. Hein. Mais,
c'était ta touch.
Ouais, moi, je suis un peu dans la gagne tout le temps. Quoi. C'est horrible. c'est un peu horrible. C'était,
tu peux être le meilleur coup.
Ouais, c'est un peu ça. Et puis, c'était. En plus, moi, j'arrivais, je suis une étrangère. Il faut savoir que dans le milieu du porno en Californie, la petite française qui débarque, clairement, elle est là pour prendre le taf des américaines.
Hein. Elles sont perçues comme ça.
Elles sont pas cool, hein. Merde. Elles sont pas cool, hein. Donc, voilà, t'arrives. Moi, il fallait que je sois la best, quoi.
Ouais.
Je suis arrivée, j'étais une Spiegler Girl direct, donc l'agent des stars. Donc, elles sont pas ravies qu'on soit là. Elles sont pas ravies qu'en fait, en plus, nous, on a cette particularité, encore une fois, les Françaises. Alors, ça, c'est très français. Pour nous, l'interracial, c'est pas de l'interracial, quoi. Je couche avec un Chinois, je couche avec un Noir, je couche avec une personne arabe. Je fais mon boulot, quoi. Ouais. Et puis, un mec, c'est un mec. Une teub, c'est une teub, quoi. Et aux États-Unis, quand on te demande, tu fais de l'interracial. Au début, je ne comprenais pas ce qu'on me demandait.
C'est ça comme si c'était un acte.
Et quand on me dit que c'est mieux payé, j'ai dit, mais vous foutez de moi, quoi. Du coup, c'est vrai qu'en tant que Française, je me retrouvais à faire que de l'interracial parce que pour moi, c'était carrément OK. Enfin, il n'y avait absolument pas de problème et il était hors de question qu'on me paye plus cher pour ça.
Ouais, parce que là, c'est la fétiche.
En fait, mon tarif, c'est celui-là et c'est le même pour tout le monde. Ouais. Nous, en France, on ne fait pas la différence. Après, j'ai vite compris, quand ma première scène interraciale est sortie aux États-Unis, j'ai reçu des centaines de messages d'insultes me disant que j'allais mourir du sida, que j'étais des horreurs pas possibles. Alors qu'en France, j'avais fait déjà des scènes interraciales. Et personne n'avait réagi. Enfin, il n'y avait pas de problème du tout.
Ouais, la névrose. Ouais.
Alors, là-bas, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et pour les filles de l'Est, c'est impossible à faire.
Mais pourquoi ?
C'est parce qu'après, elles sont hyper mal vues dans leur pays. Quoi.
D'accord. Ouais.
Mais je trouve ça hyper intéressant.
La Hongrie, c'est quand même pas le pays le plus open pour les étrangers.
Ah bon ?
Dis donc.
Clairement. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un truc qui m'avait un peu choquée. Là où moi, j'arrive en tant que Française, chouette, je vais bien m'amuser, je vais baiser tous les jours, je vais avoir plein de nouveaux partenaires et tout. Bah, en fait, t'es très seule parce que les meufs ne te calculent pas. Les mecs, il faut qu'ils fassent une scène avec toi avant de te valider. Donc, à un moment donné, j'avais plein de plans cul, c'était génial. Je sortais avec plein de garçons, c'était trop cool, on faisait plein de trucs. Mais les premières semaines, elles sont un peu rudes, ouais.
Ouais. Parce que j'aimerais revenir sur les fantasmes, en fait, ce dont tu as parlé tout à l'heure. Je trouve ça hyper intéressant parce que le porno, je trouve que ce qui m'a. Enfin, on va toujours dans la transgression, en fait, transgression culturelle, transgression des normes, etc. Et j'avais vu ce qui marchait le mieux, ce qui marchait bien comme fantasme aux États-Unis. Il y avait la famille, tout ce qui était toujours à la limite de l'inceste. Il y avait la religion.
C'est ce qui est le plus fait. Le step, ils appellent ça le step.
Ouais,
la step mom, le step dad, le step brother. Il y a pas de lien de sang en soi.
Voilà,
ça reste dans la maison.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai changé avec un agent aux États-Unis et il me disait c'est ce qu'on fait le plus quoi. Quand je lui dis nous en France on se l'interdit,
ça ne se fait pas.
Ouais. On a une éthique du contenu qui est peut-être un peu extrême, mais on ne le fait pas. Il était là, il me dit mais comment vous gagnez vos vies quoi.
Purée, c'est ouf. Hein.
Parce qu'en soi, il me dit, les gens, c'est pas des chiens de Pavlov. Hein. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils vont tenter de nous imiter à la seconde. Hein. On fait de l'image, on fait du cinéma. Je dis, oui, mais il y a des choses qui sont à la limite.
De l'inceste.
Je dis, mais c'est absolument pas illégal de se taper son beau-père. Hein.
Ouais.
Je dis, non, effectivement, non, c'est pas illégal en soi, mais... C'est chelou quand même. Il me dit bien sûr c'est chelou, mais il me dit t'as fait combien de vidéos sur tes mollets, est-ce que c'était pas chelou? Je dis c'est vrai, aux États-Unis.
Des vidéos sur tes mollets?
Ouais,
mollets.
Ils avaient un truc avec mes mollets, les Américains. J'ai des mollets de cycliste et c'était leur truc. Je faisais des vidéos entières où je me massais les mollets, où je frottais des godes sur mes mollets. Je gagnais une fortune avec ça.
En fait, c'était pas fétiche des pieds, c'était fétiche des mollets.
Ouais. Bah, je pense qu'ils n'avaient pas vu à l'époque que je faisais du 35. Maintenant, je fais beaucoup de foot fétiche.
Là, imagine si tu combines les deux.
Loulou.
Les Américains sont en PLS. Et là, tu nous as parlé justement de tes débuts. Est-ce que tu as vu vraiment une différence entre toi quand tu as commencé en tant qu'actrice et maintenant? Les actrices, est-ce qu'il y a une différence dans les pratiques, dans ce qui est demandé dans le métier?
Je trouve ça drôle parce qu'on revient à ce qu'était le porno quand j'ai débuté.
Ok.
Clairement. Moi, j'ai débuté en 2004 et il y avait peut-être une ou deux nanas qui étaient au-delà du réel. Genre, elles étaient surnaturelles. À l'époque, c'était Delphine Delage et Alison Rey parce qu'elles arrivaient à se mettre leurs mains dans le cul, quoi. C'était waouh. Mais on n'allait surtout pas faire pareil. Nous, on fait du glamour. Nous, on est des créatures mystiques, quoi. L'actrice X, c'était une déesse mystique. Mmh. On la croise nulle part, à part en salon de l'érotisme. On la voit que dans les films. Les films, c'est des films d'Orcel ou VCOM ou Haute Vidéo à l'époque sur Canal+. Mmh. Nous, on faisait 5-6 films dans l'année et on allait en salon érotique faire des séances de dédicaces. Il n'était pas question qu'en salon érotique, je me balade en sous-vêtements. Hein.
Ouais.
Pas du tout.
Ouais, hein. C'était riche. Enfin,
ouais, on était des créatures mystiques. Quoi. Mmh. On faisait de la visio à des tarifs inimaginables pour aujourd'hui quand il y a eu les débuts d'Internet.
Est-ce que c'est l'équivalent maintenant des OnlyFans au niveau des prix ou ce genre de choses?
Oh, c'était beaucoup mieux payé à l'époque.
Ah ouais?
Ouh là là, oui. Okay. Avec les débuts d'Internet, on a commencé les webcams. Et à l'époque, déjà, on était tout en CDI.
D'accord.
Le mec qui a monté la webcam se voulait entrepreneur. Moi, je monte une boîte, j'embauche les gens, quoi. Donc, on était tout en CDI. Il avait une cinquantaine d'actrices en CDI sur la webcam. Et on avait un planning sur la semaine où on se mettait dans les cases, on remplissait le truc... Et en gros, je faisais 9 heures de webcam par mois pour un SMIC.
Wow. 9 heures, ah oui, 9 heures. C'est un petit quart d'heure par par-ci, par-là.
Et les heures sup, c'était 300 balles de l'heure pour s'il y avait de la place. Donc, on est toutes devenues propriétaires très vite. Hein. Ouais. À l'époque, on était toutes en CDI, c'était très cool. On faisait notre boulot, quoi.
Bah, c'est des professionnels qualifiés, quoi. Donc, juste
c'est
le paiement.
C'est ça. Ouais. Après, il y a eu une mutation du truc. Donc, avec l'Internet, la fin du DVD, quoi.
Ouais.
Il y avait la différence entre les films scénarisés, Canal+, et les gonzos. On fait juste une scène. Et moi, je me souviens très bien à l'époque, il n'était pas possible qu'une actrice qui fait des films scénarisés aille faire du gonzo. C'est pas le même genre, quoi.
Mmh.
Faisait du gonzo, les pauvres meufs, quoi.
Ouais.
Les vieilles Second meufs,
zone, quoi,
celles ouais. pas très jolies, celles ouais. à qui on ne pouvait pas donner des rôles parce que ça ne savait pas dire 3 mois en comédie.
Ça se faisait qu'on repère des actrices de gonzo et qu'on les fasse passer, du coup, après en film scénarisé?
Mais il vraiment... a fallu attendre que le gonzo devienne le plus fait
ouais.
pour qu'à l'inverse, les filles du scénarisé se disent « Attends, elle fait 3 scènes par semaine, à 1000 balles la scène. Pourquoi moi, je fais 3 films par an ?» Et j'ai mon petit SMIC, là, et demi de visio. Donc, on y est venu. Surtout que la plupart des productions qui faisaient des films scénarisés se sont dit aussi, mais on va produire du gonzo.
Ouais.
On va ouvrir tout le monde a voulu ouvrir un site internet de films X et c'était des scènes. Des gens consommaient des scènes. Donc, on a rendu le téléspectateur abruti parce qu'il n'y avait plus de mise en situation. Il n'y avait plus le « Mais pourquoi la voisine du voisin du plombier est-ce qu'elle va aller avec lui ou avec lui ?» Il y avait quand même il y avait toujours un petit jeu. Certes, un jeu nul. Il n'y avait pas beaucoup de thunes. On ne va pas dire que nos films, c'était du 7e art. Mais qu'il y a eu quand même de très bons films. Mais,
il y avait une intention, quoi.
Il y avait une intention. Le sexe n'arrivait pas comme ça, de but en blanc. Toc, toc, bim, bam, boum, quoi.
Ouais.
Il y avait toujours un truc. Et c'est vrai qu'est arrivé le gonzo. Et en même temps que le gonzo... La handicam, n'importe qui pouvait se filmer
ouais.
et n'importe qui pouvait balancer sa vidéo. Et ça nous a révolutionné, entre guillemets, parce qu'est arrivé l'amateur. Et donc, du jour au lendemain, il y avait les professionnels, les amateurs. Et est arrivé derrière ça Instagram, Twitter. Donc, les actrices ne sont plus des créatures mystiques, ce sont des êtres humains. Et ben on les a beaucoup moins fait bander. Parce que finalement, on est juste des personnes. Donc, ils ne pouvaient plus projeter autant de fantasmes qu'ils faisaient avant sur nous. Parce qu'on n'était pas des pages vierges, entre guillemets. On n'était pas juste une enveloppe corporelle qui s'adonne à un acte et qui en redemande, contrairement à leur meuf. En tout cas, c'est l'image qu'on se donne. Voilà. L'actrice X, elle risque pas de tomber enceinte. Elle dit encore, toujours encore, et oui, encore. Et en plus, elle est super jolie et elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de bagage. Elle ne va pas, après l'amour, dire « Sinon, tu as vidé la machine à laver. » Il n'y a rien. Et avec les réseaux sociaux, on est devenus des humains. Et donc, là, le porno, il s'est écroulé. Tout le monde balançait ses vidéos sur le net, des gens qui adoraient baiser, qui n'étaient pas payés pour. Donc, c'est cela qu'on a envie de voir, parce qu'on se dit, les professionnels, ils se foutent un peu de notre gueule.
Ouais.
En plus, les professionnels, finalement, ils ouvrent leur bouche, ils ont des choses à dire, ils nous vendent des produits en ligne, ils font des partenariats rémunérés, et ils nous font chier avec leur OnlyFans. Il faut s'abonner. Forcément, ça ne fonctionnait plus, quoi.
Ouais.
Ça ne fonctionnait plus.
Moi, j'ai une petite question quand même, parce que tu as parlé tout à l'heure des spécialités de celles qui devenaient vraiment les queens, un peu. Toi,
pas les queens, hein.
Non,
j'ai dit c'était des créatures surnaturelles. Ouais, mais parce qu'elles étaient hardcore, quoi. Moi, j'ai attendu 2 ans avant de me faire enculer.
D'accord.
J'ai fait 2 ans de porno avant d'accepter la sodomie. à l'époque, il fallait surtout pas arriver et tout faire.
Pour faire monter le désir, c'est ça ?
Oui, puis il faut... Et c'est du business, hein. Ouais. Quand on a fait 3-4 films nommés AVN, machin, bidule, la première Sodo...
Ah ouais.
Tu l'as fait payer cher.
Bah, bien sûr.
Putain, c'est du business.
Bien
hein.
sûr.
Du business.
Quand
du
j'ai
business.
Vu arriver des petites meufs, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait une nana, Lola Paris. Bon, c'est un pseudonyme. Mm-hmm. Elle est arrivée avec son appareil dentaire. Un corps incroyable. Une petite pépette, quoi, magnifique. Tout juste 18 ans, elle attendait que ça, d'aller frapper à la porte de John Beirut le jour où elle serait majeure. Elle est arrivée, j'étais là pour son casting, parce qu'après, on devait faire des photos ensemble et tout. Elle faisait tout, quoi. Dans la vie privée, elle avait tout fait. Double anal, double vaginal, 3, 4, 5 mecs. Et moi, j'avais déjà 5, 6 ans de porno. Mais je crois que je m'étais fait enculer une fois dans ma vie privée. Quoi. J'étais là, mais what the fuck ?
Moi aussi, je veux.
C'est quoi cette génération de dingue, là, avant de débaucher ? Et John m'avait dit, mais c'est de ta faute. J'ai dit, quoi, c'est ma faute ? Moi, j'ai jamais fait ça dans les films, déjà. J'ai pas fait de double anal, j'ai pas fait de double vaginal. Quelle idée de vouloir en mettre deux dans un seul trou. Enfin, pourquoi faire, quoi ?
Pourquoi faire ?
Bah ouais, pourquoi faire ?
Sur enchère.
Mais oui, je voyais pas l'intérêt du tout. Et il y a eu toute une génération de meufs là, qui sont arrivées.
Et comment t'expliques que toi, même si t'as mis du temps, t'as explosé à un moment ? Est-ce que t'as eu un film ou une scène ou quelque chose qui a fait que ça explique que maintenant t'es quand même hyper placée dans le milieu, quoi ?
Eh bien, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai un peu eu l'impression toute ma carrière d'être un second couteau, quoi. Honnêtement, j'ai attendu très longtemps pour avoir en France un vrai premier rôle dans un film. Je crois que le premier, ça devait être « Mangez-moi bah, » de John Beirut, qui m'a vraiment mise en avant. J'avais l'affiche, le truc. Voilà, j'étais le premier rôle du film. Je ne sais pas si ce film a été le tournant pour la France. J'ai eu le sentiment qu'en France, on m'a vraiment reconnue comme étant voilà, une meuf qui pèse dans le game en tant qu'actrice, hein, je précise, à mon retour des États-Unis. Il a fallu attendre 2011, alors que j'ai quand même commencé en 2004, pour que vraiment on me dise... ouais, vraiment, j'ai le sentiment que voilà, quoi, que maintenant, j'étais comme les... moi, j'ai vu arriver tellement de meufs et les voir faire les restas, là, machin, alors qu'au final, elles étaient nulles, elles aimaient pas être là, elles se faisaient chier, elles voyaient que l'argent. Ou alors, on savait pertinemment qu'elles feraient 6 mois de porno parce que derrière, elles voulaient s'engager dans l'île de la tentation, etc., machin, bidule. Ah, ça me foutait okay. les boules parce que ouais. moi, je suis là depuis 5 piges, nénette. Ça c'était ouais. un peu relou, quoi. Et j'en ai vu passer un paquet, hein. Il y en a d'autres qui sont restés, hein. Moi, j'ai vu arriver Anna Paulina, j'ai vu arriver Nikita Bellucci, j'ai vu arriver Anissa Kate... Il y a toutes les nénettes que tout le monde connaît aujourd'hui. Moi, je les ai vues débuter. J'étais là pour leur début. C'était trop chou. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se met un peu colère, quoi. On se dit, attends, la meuf, elle est là depuis 4 mois. Et pourquoi il l'emmène, elle, à Las Vegas? Et moi, je suis là depuis je sais pas combien de temps.
Je fais tout pareil.
C'est chier. Et en fait, c'est quand j'ai décidé de m'expatrier, quoi. En 2009, première fois, je suis partie dans les pays de l'Est. C'est bon, ça me saoule, quoi. Je suis partie dans les pays de l'Est. Et en plus, en France, on me trouvait ronde. Le physique de la Kardashian, ce n'était pas encore un truc très, très, très apprécié en France. C'était plutôt les petites meufs à la Clara Morgan, quoi. Ouais. Petit sein, petit cul, un peu girl next door. Moi, j'étais archi brune, j'avais un pétard comme ça. Forcément, j'étais plus... j'étais un peu latina sur le physique, quoi. Et dans les pays de l'Est, ça s'est méga bien passé. J'ai adoré, c'était trop bien. C'était vraiment trop cool et j'ai dit, vas-y, je me casse aux States. Et là-bas, autant dire que mon corps était... On m'a même dit, hein, prends un peu plus de cul si tu veux. Hein. Voilà, mais super, incroyable. Les gars, on y va.
C'est bête, mais c'est quoi un souvenir vraiment qui t'a fait kiffer particulièrement ? Ça peut être une scène, ça peut être un moment, ça peut être un film. Parce que ce que j'aime bien quand on parle avec toi, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment comme, pas vocation, mais t'as un truc où, ouais, c'est ton taf, tu l'aimes et c'est plaisant à entendre parce qu'on a souvent cette image des actrices qui sont forcées, enfin, un peu tout cet imaginaire aussi qu'on a. Et toi, on sent que c'est une vraie... ouais, que c'est une vocation, quoi. C'est, tu kiffes ça, t'es là où tu veux être.
Et, je pense pas qu'on puisse parler de vocation, ouais. Mais... mais moi, j'ai pas eu... déjà, moi, j'ai commencé le porno. Je pense que j'étais complètement asexuée, quoi. Je suis arrivée... En fait, j'ai tout commencé sans me poser de questions. Moi, j'arrivais d'un milieu... ça faisait un moment que je traînais qu'avec mes potes. On parlait pas de cul, quoi. On parlait pas de cul. Le physique, la baise, c'était plutôt Technival, cool. Voilà, on vit à 12 dans un studio, on s'éclate. Et voilà, pour gagner ma vie très naturellement, j'ai atterri dans un peep show. Mais pour moi, il n'y avait aucun problème, quoi. J'écartais le rideau, le monsieur se masturbait, moi, je faisais mon spectacle. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment de faire quelque chose de mal. J'ai jamais eu le sentiment de faire quelque chose qu'on allait me reprocher plus tard. Je ne voyais pas où était le problème, en fait. Et quand j'ai rencontré un acteur et une actrice et qu'ils m'ont proposé de faire des photos, ben c'est hyper naturellement que j'ai baisé avec eux, qu'on a fait les photos, c'était trop bien. Haute Vidéo a voulu faire des photos aussi, ben super, allons faire des photos. Et après, Dorcel m'a contacté. Ah, on vous a vu dans Haute Vidéo, est-ce que vous voulez faire un vrai film? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Ouais. Moi, je monte dans le train, j'y vais. Et tout m'a paru normal, quoi. Tout m'a paru normal, quoi. Il n'y avait pas de souci, quoi. Et je n'ai pas eu le sentiment d'aller coucher avec cet acteur. J'ai eu le sentiment d'aller faire un spectacle, tester un truc. Moi, j'ai passé 3-4 jours trop cool dans un immense château avec plein de gens complètement dingues. C'était trop bien. J'ai rencontré Nina Roberts sur mon premier tournage. Cette nana, c'était quand même un personnage incroyable. Et
pourquoi?
Bah parce que Nina Roberts, elle était rock'n'roll, quoi.
Genre?
Bah, genre, elle était très cool. Il y avait Alison Rey aussi. Moi, je me souviens, premier jour, j'arrive, on m'indique la loge make-up. Et quand j'étais parue dans Haute Vidéo, on m'avait appelée la nouvelle moule du business. Et j'avais fait des photos sur un bateau d'ostréiculture, parce que je suis bordelaise. Et j'arrive dans la salle de...
Franchement, rendre ça sexy, je suis désolée, là, comment tu me le décris.
Mais non, mais pas sur le bateau, avec mon petit short en jean. D'accord, okay. Comme ça, avec la dune du Pila derrière.
Okay. C'est mieux.
Voilà, ils avaient choisi un bateau de parc à huîtres, parce qu'en plus, c'est tout plat, c'est hyper pratique pour les photos, c'est magnifique. Mais c'était, voilà, la nouvelle moule du business. Et du coup, j'arrive sur ce tournage d'Orcel, et le réalisateur dit « Ah, c'est toi la nouvelle moule ?» Et moi, j'essaye de... Je dis, en fait, à Bordeaux, on fait des huîtres, quoi.
C'est clair.
On fait pas des moules, quoi. tout le tournage, on m'appelait la moule, quoi. J'ai dit, mais en fait, on fait des huîtres, les gars. Vous connaissez rien, quoi.
Donc, la nouvelle moule du milieu, c'est quand même...
Et j'arrive pour voilà, on monte la longe, le make-up, les machins. Et à un moment donné, je ressors pour fumer une clope. Je tournais un peu en rond. Ça faisait une heure que j'étais là. Ça bossait à gauche, à droite. Il y avait 30 personnes. Tout le monde travaillait. Et là, il y a deux nanas qui viennent s'asseoir devant moi. Et il y avait Alison Rey. Et elle s'assied. Et elle pose son pied comme ça sur le petit mur en allumant sa clope. Clairement, je vois sa tush. Et moi, je suis là.
Je suis la nouvelle boule.
Yay! Tush apparente. Cool, cool. Ça commence comme ça. Et à Nina Roberts, à côté, qui me dit du coup, c'est ton premier set, ouais. Ah, tu baises avec qui? J'ai dit, ah, mais je sais pas. Ah, tu sais pas, il va te demander de choisir. Oh, bah, moi, je peux te donner des conseils et tout. J'ai dit, bah, carrément, on choisit ensemble, quoi. Et quand le réal m'emmène dans une pièce, et sur la baie vitrée, il y avait les mecs. Alors, je sais pas comment ils s'étaient débrouillés. Et donc, on était à l'intérieur, et il me dit, bah, tu veux lequel? Parce que ta scène, c'est dans une partouze. Tu es libre.
Wow.
Tu fais ce que tu veux, pas de pression. Non, mais il n'y a pas de scénario qui t'oblige à faire ça, mm-hmm. Nanana. T'es perdu au milieu de la masse. Comme ça, si ça va pas, elle me dit, hein, si t'es nul. On s'en fout, quoi. Ouais. Je te coupe, tout va bien. Alors, j'étais avec les deux actrices. Et alors, lui, il pue un peu de la gueule. Il baisse trop bien, c'est un lover, nanana. Bon, au final, elle m'a dit, lui, il a qu'une couille, je l'ai choisi direct. Je veux voir ça. J'ai choisi Titoff parce qu'elle m'a dit, ah, lui, il a qu'une couille.
Résultat,
je prends monocouille. Ben, c'était trop bien.
Monocouille.
C'était génial. Mais encore, j'ai pas du tout... Et après, ça s'enchaînait, quoi. Un autre réal m'a contacté quelques semaines plus tard. J'ai vu les rushs de tel film. C'était bien. Nous, on a telle série. Est-ce que tu veux? Bon, pourquoi pas. Et du coup, j'ai appelé Nina et Alison. On m'a proposé ça. C'est bien, c'est pas bien. Puis à un moment donné, elle me dit, en fait, Émilie, tout est bien parce que t'as commencé chez Dorcel, quoi.
Ouais.
Il y aura rien de pas bien. Elle me dit clairement, c'est bon, quoi. Si ça t'amuse, vas-y. Et pendant au moins 2 ans, c'était un peu comme ça, quoi. J'allais, je m'amusais, je rentrais chez moi. Et c'est au bout de 2 ans que je me suis dit quand même, je vais faire ça sérieusement, quoi. Ouais. Je vais en faire mon job, je vais me définir comme étant actrice X. Et puis voilà, c'était parti, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la grosse émergence du porno éthique? Justement, un peu de Olympe de G, de Ovidi, justement, qui propose un nouveau type de contenu en intégrant beaucoup, beaucoup de nouvelles dynamiques.
Moi, j'ai tourné pour Ovidi hein, quand elle réalisait. Ouais. Elle ne réalise plus depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Hein.
Ouais, mais oui, là, je repensais à elle pour la grève du sexe.
Mais j'ai pas eu le sentiment, quand je tournais pour Ovidi, que je tournais pour autre chose que de la pornographie.
Ouais.
Ouais, non. Moi, je pense que le porno éthique, c'est le porno professionnel, en fait.
Ouais.
C'est le porno où chacun est reconnu à sa juste valeur, où chacun a posé ses conditions, est content de venir, est d'accord pour le partenaire, l'a su avant, a eu un plan de travail. Parce que sous couvert de porno éthique, on peut aussi faire n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai en tête une réalisatrice dont je ne citerai pas le nom, qui a décidé de payer tout le monde pareil. Ouais. Peu importe la performance.
Et pas très bien, d'ailleurs.
Bah, c'est pas normal, en fait. Moi, quand une actrice me dit bah, « mon tarif, c'est tant », à moi ou à d'autres réalisateurs, on ne négocie pas le tarif. La valeur que quelqu'un se donne, c'est sa valeur. Et si je n'ai pas les moyens de prendre cette comédienne ou ce comédien, je ne travaille pas avec. Ouais. Mais on ne négocie pas un foutu tarif, quoi. On parle de la nudité de quelqu'un, on parle du fait de s'exposer physiquement, on parle du fait d'avoir une relation sexuelle intime avec un partenaire devant ma caméra. Enfin... Non, on ne négocie pas un tarif. Et si une jeune femme ou même une femme plus âgée décide qu'elle vaut tant pour ce travail, eh ben elle vaut tant pour ce travail. Sous couvert d'éthique, c'est tout le monde le même prix, c'est à la bonne franquette, on peut faire des journées de 15 heures, c'est... j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est un peu le festival Emmaüs du cul, quoi. Du coup. Je suis désolée.
C'est clair, de ouf.
Je suis désolée, mais bon. Ouais. Je pense que l'éthique... c'est avant tout le respect de l'autre. Et on peut taper sur le porno mainstream, parce que, évidemment, apparemment, je fais partie du porno mainstream, hein, mais le porno mainstream, c'est ton tarif, c'est ton tarif. Tu finiras ta journée à une heure décente et tu commenceras pas la deuxième à moins de 12 heures qui suit. Tu auras un repas chaud minimum par jour et un repas froid au petit déjeuner. Moi, je demande qui veut quoi, bien sûr. Tout est...
J'ai la petite question de la fin. Je pense que là, il y a tellement de choses.
Une petite dernière.
Vas-y,
mais qui est un peu par curiosité, parce que c'est vraiment une question, mais peut-être courte. Est-ce que le plaisir, j'imagine que la question est évidente, mais parce que tu as l'air d'avoir pris beaucoup de plaisir aussi dans tes scènes, et ça fait du bien à entendre, est-ce qu'il est quand même le même ou pas dans l'intimité? Ou est-ce qu'il diffère? Enfin, comment tu...
Mais le plaisir est question du partenaire.
Ouais.
Et de l'instant. Je veux dire, c'est hyper... c'est hyper partenaire dépendant et situation dépendant. Donc, je peux faire une scène le lundi avec un acteur et c'est incroyable. Et puis, le jeudi, on se retrouve dans un bar et on rentre se la donner et c'est nul à chier. Donc, c'est le moment, c'est le mood. Et comme c'est pareil avec un compagnon fixe, dans une relation exclusive, c'est, tout ça, c'est vraiment... au-delà d'être partenaire dépendant, c'est aussi mood dépendant, quoi.
Ouais, d'accord.
Comment je me sens aujourd'hui, j'en sais rien. C'est hyper aléatoire.
Ouais, parce que j'avais un peu la question de la fin, c'était pour rejoindre ça aussi, c'était le côté d'être un bon coup. Parce que forcément, l'idée d'être, d'être un bon coup, ça dépend vachement de nos modèles de représentation, donc le porno aussi. Et du coup, est-ce que toi, tu avais conscience de montrer une façon de faire du sexe qui allait inspirer plein d'autres gens de vouloir faire du sexe comme toi pour être des bons coups?
Eh bien, absolument pas. Parce que j'ai jamais consommé. En fait, il m'est arrivé... aux États-Unis, de tourner dans une villa. Donc, dans la vallée, il y a des montagnes, des machins. Bon, on est dans les hills, d'ailleurs. Et dans les trois baraques qu'on voit à l'autre côté du canyon, là, ça tourne du porno partout, quoi. Et je me demandais, mais qui achète tout ça? C'est comme ce qu'on faisait. Moi, j'avais l'impression d'être une performeuse parce que je pratiquais la sodomie, parce qu'il m'arrivait de pratiquer la DP, parce que j'aimais bien avoir deux, trois partenaires. J'aimais bien, et des fois, être avec... Quand on avait des scènes à trois, quatre, cinq filles, c'était trop bien. Mais j'étais persuadée qu'on était hors norme, que personne faisait ça chez eux. Et en fait, j'ai découvert en arrêtant et en ayant des histoires plus sérieuses et en me permettant de me découvrir, moi, Émilie, sexuellement, qu'en fait, tout le monde fait ça. Et oui, que vraiment, enfin, cool, quoi. Et que les films... Je ne sais pas si les films ont inspiré les gens. Moi, je me suis surtout dit, ce qu'on fait dans les films... Ça représente ce que font les gens chez eux.
Ah, j'adore, c'est une situation.
Et non pas les gens font ça parce qu'on a fait des films. Moi, je ne l'ai jamais vu dans ce sens-là.
Ouais.
Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai jamais vu dans ce sens-là.
Ouais. Non, j'adore, ça fait complètement sens. Merci beaucoup, c'était hyper enrichissant, on a appris tellement de choses. On va passer à nos capsules. Donc, on a la capsule Astro. Donc, Astro Kiff qui va nous parler, enfin, une petite analyse astrale, sur le thème, justement, de l'industrie du sexe. On l'écoute tout de suite, on réagit ensuite.
Bonjour à tous, c'est Astro Kiff. Aujourd'hui, je me suis demandé quel placement dans notre thème natal pouvait nous mener à être une véritable star du X ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est un thème natal ? Un thème natal, c'est une carte qui représente les placements des planètes, des constellations, des aspects au moment de votre naissance. Moi, je m'intéressais à quels placements peuvent traduire ça chez une personne. Alors, la première chose, ça peut être déjà un placement d'une Vénus. Donc, Vénus, c'est le signe de l'amour, la sensualité, la vie charnelle, la féminité, dans un signe de feu. Une Vénus qui est placée à un signe de feu va être un peu plus décomplexée. Pourquoi ? Parce que le feu, c'est la passion. Donc, quand ça nous prend, on ne le contrôle pas. Donc, ça peut déjà aider à avoir un premier placement qui nous mène à tout ça, mais ça ne va pas suffire. Ce qui peut être très intéressant, c'est de regarder votre placement de Pluton. Pluton, c'est la planète des limites que l'on franchit. Surtout, c'est la planète du pouvoir, c'est la planète du pouvoir du sexe aussi, c'est la planète de la transformation. Il y a quelque chose de très très fort dans l'énergie de Pluton qui va jusqu'à la transgression. Alors, par exemple, un Pluton qui est placé dans la maison 10. La maison 10, c'est la position socio-professionnelle. Si Pluton se retrouve placé dans une maison 10, alors il va avoir un enjeu très très fort sur la vie professionnelle de la personne. Donc avec un Pluton en maison 10, on peut être par exemple président ou star du X, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que Pluton peut avoir une signification de pouvoir, mais Pluton, c'est aussi la sexualité. Donc, il y a une interprétation à faire sur ça qui peut être assez intéressante. On peut y rajouter encore d'autres points à observer. Par exemple, la lune noire. La lune noire, ça représente le potentiel. Il y a quelque chose de très mystique. La lune noire, elle est aussi appelée Lilith. Lilith, c'est la femme du diable. Elle représente l'énergie, le potentiel, les peurs profondes, les fantasmes profonds et aussi le potentiel profond. Donc, la lune noire va toujours nous attirer dans un domaine et à nous de voir si on y va à fond ou pas. Mais par exemple, si la lune noire elle est en rapport avec le Pluton, dans le thème natal, dans ce cas-là, on peut avoir encore plus de prédisposition à rentrer dans des milieux un petit peu souterrains, parce que Pluton, c'est ça aussi. Ce sont les métiers que l'on ne voit pas, les métiers que l'on n'expose pas, ou que d'une certaine manière.
Intéressant. Moi, j'aime bien la figure de Lilith. Bon, forcément, le côté un peu péché, original, tout ça, c'est un peu relou. Mais la figure de la lune noire, je me dis, Lilith, ça serait un bon nom de star du X.
Quand Anna Paulina a commencé, elle s'appelait Lilith Marshall.
Voilà, lune noire. Oui. Ok, du coup, nous passons à notre fantasy à tester.
Oui.
Oui, Camille qui nous concocte. Concocte, c'est un bon mot ça, ouais. Ouais, c'est concocté.
Concocté.
Oui. Camille qui nous a concocté un challenge comme d'hab, quoi.
Oui, et le Femtasy à tester, c'est le moment où, en diguant sur les internets, je me suis rendu compte qu'il y avait une tripotée de petites pratiques méconnues, mais aussi des fantasmes qui revenaient en masse. Et vu que l'on a la chance d'avoir des invités de choix, pourquoi ne pas les faire tester ? Et pour toi, Lisa, on a voulu être un peu connectés. Et en ce moment, les sextoys sont aussi nécessaires qu'un bon missionnaire, mais lorsqu'ils se commandent à distance et avec une petite télécommande, le tout dans un espace public ou pas, c'est un autre challenge. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Les vibros connectés, oui. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, j'ai testé, moi... le truc, non, enfin j'avais testé l'œuf, mais honnêtement, pas ouf. Moi, j'ai trouvé pas ouf.
Ouais, ouais.
Mais il y avait un autre truc à l'époque, une espèce de V là, comme ça. Et donc, on rentrait une partie, et l'autre partie, du coup, était sur le clitoris. Ça. Et ça, c'était assez cool, surtout si on est assise, parce que du coup, on est appuyé dessus, et c'était très, très cool.
Okay. Mais, et du coup, est-ce que c'était commandé par ton partenaire ou c'était vraiment. Solo.
Non, c'était commandé par mon partenaire.
D'accord.
Je savais.
Tout de même. Pas. Et j'en avais même fait une vidéo à l'époque où je prenais l'avion.
Ah ouais, okay. Donc tout de suite, ça met les bases, quoi.
Ouais. Et, mais c'était en fait, du coup, c'est nul. C'était mon caméraman qui avait la télécommande. Parce qu'on était, on partait tous les deux pour faire des contenus à Budapest et... Donc voilà quoi, comme sur la route, il fallait qu'on agrémente un peu ce voyage pour l'histoire du film. Ça s'appelait c'était pour les castings de Lisa, donc je partais à Buda rencontrer plein de meufs. Et voilà, dès l'avion. Donc c'est un peu bizarre quand c'est télécommandé par quelqu'un qui n'est pas un partenaire.
Ah, ça change la dynamique, ouais.
Mais c'était très cool.
Trop marrant. C'est
vrai parce qu'au début, tu commences par la petite histoire, tu rajoutes un petit, puis dans l'avion, puis en fait, c'était mon caméraman.
Bien
en fait,
c'est pour Budapest.
Okay, en fait, voilà, c'est pour aller à Budapest pour faire des contenus. Il y a quoi ? Ben oui, toi ?
Alors moi, je n'aime pas. Franchement, je trouve ça pas extraordinaire. J'aime pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est dans un contexte, c'était au resto. Et j'avais uniquement la stimulation, du coup, ben, avec l'œuf interne, là, pff, pas ma cam. Et puis, j'aime bien perdre le contrôle, mais dans un contexte où on a un peu, je sais pas, où il y a eu plus de, il y a plus d'échanges, il y a plus de préparation. Là, ça fait un peu genre des sursautements pas très agréables, quoi. Donc franchement, je mettrais un petit 2 sur 10, pas convaincue.
Et moi, pareil, c'était l'œuf. Et en plus, il avait une sorte de, d'apparence de petite baleine. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre avec une petite zigouigoui qui sort, ouais, rose. Et du coup, je trouve que déjà, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Enfin, je trouve que l'esthétique est quand même importante. Et du coup, d'avoir la petite, j'avais l'impression d'avoir un petit flagelle qui sortait de moi. Donc du coup, ça m'a fait un peu bizarre. Et ensuite, même au niveau des sensations, j'ai pas trouvé ça fou. Enfin, c'est amusant, ça vibre. Mais je pense qu'on a quand même pas mal l'habitude avec les sex toys classiques. Que ce soit dans la rue, pareil. Moi, je réagis, je crie. Hein. Au cinéma, je crie. Dans ma vie, je crie. Enfin, je suis très expressive.
Tu m'as l'air d'être une criarde. Hein.
C'est vrai. Merci, Lisa. Mais c'est vrai. Et donc, du coup, je suis pas du tout discrète. Donc, en fait, les gens à côté de moi au ciné ont peur plus de moi que du film. Et donc, bah, du coup, un peu pareil, quoi. Donc, ouais. Dans le restaurant, c'est... Enfin, attention à vous. Donc, du coup, non, j'ai plus eu peur pour les gens autour de moi et leurs réactions que du plaisir pur. Mais parce que c'est amusant et que je trouve quand même que c'est des petites...
C'est ludique.
C'est ludique. C'est ludique. Des trucs quand même en petit 5.
Mais moi, je l'avais quand même fini par le tester, enfin, seul, quoi.
Ouais.
Parce que quand on avait passé le vol à faire des plans comme ci, des plans comme là, où il m'allumait le truc et je faisais genre... la caméra, à un moment donné, voilà, le soir à l'hôtel... Je l'avais mis jusqu'à l'orgasme, mais il avait fallu que j'appuie dessus, machin.
Bah, c'est ça, ouais.
Ça,
je crois que c'est difficile de pas recalibrer, de pas adapter, tu vois. Ok, alors question de la communauté. Comment je fais pour jouir sans porno et en pensant à mon copain ? Alors là, on sent l'insécurité de notre...
Auditrice.
Ok. Ouais. Je pense qu'on demande à la mauvaise personne.
Alors moi, je ne peux que te conseiller de consulter.
Ouais.
Bah oui.
Parce que t'aurais dû jouir sans porno et sans copain et sans aucune stimulation seule depuis bien longtemps. Donc, consulte. Je suis désolée. Ouais. Enfin, non, je suis pas désolée.
Sans appel.
Ça va être super. Ouais. Tu vas aller beaucoup mieux. Tu vas kiffer ta life, mais ouais. Consulte.
Ouais. Bah, oui, déjà, la question est un peu tricky. Enfin, je trouve qu'elle porte en son sein le fait que déjà, ce soit pas. Ça n'aille pas
ça
trop.
Va pas. Ça va pas,
ça trop, va pas trop, trop bien. Peut-être change de copain. Parce que du coup, si ça marche pas en pensant à lui.
Après, c'est... si son copain la fait jouir lors de l'acte, c'est super. Mais si à côté de ça, elle a pas ses moments à elle, où elle se détache et de lui et du porno, et qu'elle se crée pas son univers à elle pour. Accéder à l'orgasme toute seule,
ouais.
Faut consulter.
Ouais. Voilà le mot de la fin. Consulte,
et je pense
ma chérie.
Ça, oui, consulte. Il faut pas avoir honte parce que parfois on a l'impression d'aller voir des sexologues ou même de se faire aider. Bah c'est pas bien. Et je suis
non,
d'accord.
Non, c'est important. Et je suis plus psychologue que sexologue, mais
ouais.
Ouais.
Tout peut se débloquer.
Ah c'est vrai. Pour toi ouais. C'est plus psy que sexo.
Ah oui.
Ouais.
Oui.
Ok.
Bah là en plus il y a une accoutumance au porno et que ça devient le symbole de toute son intimité, effectivement il y a plein de trucs, mais tout est possible et tu peux t'en sortir, t'en fais pas, tout va bien, ça va bien se passer. Ok, bah merci beaucoup Lisa Del Sierra, c'était Débauche, le podcast original Femtasy. Si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par Lisa, cliquez sur le lien en description de l'épisode, et puis tant qu'à faire vous pouvez explorer le reste de la plateforme et vous faire du bien. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, bisous, salut.
Ciao.